Le café est brûlant. J'en recrache un peu malgré moi. Il est encore tôt, 8h30 du matin. Je suis en avance comme toujours quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour la première fois. La cafétéria évoque davantage un coffee shop à la mode scandinave qu'un hôpital. Les deux femmes assises à la table d'à côté me jettent un coup d'œil avant de reprendre leur conversation. Leurs enfants, une petite fille blonde aux cheveux bouclés qui doit avoir 7 ou 8 ans et un garçon peut-être un peu plus âgé aux grands yeux verts, ont fini par se lever. Ils sautent à cloche-pied, s'efforçant de ne pas dépasser les lignes des lattes du parquet en linoléum, respectant avec conviction leurs règles du jeu improvisé. À quelques mètres de nous, les employés de l'hôpital font la queue pour acheter leur dose de caféine. J'ai rendez-vous avec Pascal Brunet, la psychiatre qui a fondé l'unité d'addictologie de l'enfant et de l'adolescent. On y accède à partir d'un jardin d'hiver décoré de mosaïques où l'on peut s'asseoir sur un banc, jouer du piano, laisser ses enfants profiter de jeux en bois. Bonjour Lara, venez, entrez. Je viens de recevoir une jeune femme que j'ai prise pour vous. Elle ressemblait à la photo de votre CV, elle s'est assise dans mon fauteuil, j'ai trouvé ça cavalier. Le docteur Brunet éclate de rire. Ce n'était pas vous et heureusement. Elle met un point d'honneur à accepter toutes les demandes de stage si le fonctionnement de son équipe le permet. La mienne l'a interpellée, car en parallèle à mon master en psychologie clinique, j'ai un projet. Ouvrir une structure d'accueil pour les jeunes addicts au numérique s'inspirant d'expériences menées aux États-Unis. Un centre fermé, utilisant tout un tas de thérapies nouvelles pour les libérer des écrans. J'ai commencé à m'intéresser à la psychologie quand mes enfants sont nés et qu'il a fallu mettre définitivement ma propre enfance de côté. J'ai eu ma fille aînée à 28 ans, puis deux garçons d'un coup, des jumeaux. Trois enfants en 2 ans et demi. Consulter des thérapeutes est l'une des solutions que j'ai trouvées pour garder la tête hors de ce torrent qui m'emportait. Aller voir quelqu'un, travailler sur soi. Je me suis vite prise au jeu de ce qui me semble être l'un des grands luxes de l'époque dans laquelle je vis et de la condition sociale à laquelle j'ai accédé. Mes grands-mères et leur propre mère n'avaient pas pu s'offrir le privilège d'aller parler à un psy pour se sentir mieux. Elles avaient eu plus d'enfants que moi, mais des soupapes elles n'en eurent certainement pas, ou si peu. Moi, je pouvais penser à mon bien-être psychique. À 30 ans, j'ai commencé à aller voir psychologues, psychiatres et autres thérapeutes pour mieux me connaître, me sentir plus à ma place et faire de ce travail sur moi un terreau de sérénité pour mes enfants. Je m'intéressais surtout aux thérapies nouvelles, l'hypnose pour contenir mes addictions, le MDR pour soigner mes traumatismes et aux neurosciences pour comprendre le fonctionnement de mon cerveau. J'ai aussi emmené mes enfants consulter des thérapeutes à plusieurs reprises pour des problèmes de sommeil, de l'anxiété, des phobies infantiles. J'étais souvent prise de vertige quand je pensais à tout ce qu'ils auraient à affronter. Dans ce vaste fourre-tout que je remplissais de mes propres peurs, je voyais les écrans comme un ennemi à abattre. Tant que mes enfants étaient petits, je pouvais m'improviser guerrière, refuser qu'ils aient un smartphone ou une tablette entre les mains. Mais à partir du jour où ils entreraient au collège, je n'aurais certainement plus ce pouvoir. Je me souviens d'un film documentaire sur des cadres des géants du numérique de la Silicon Valley, confiant avoir inscrit leurs enfants dans des écoles sans écran et refusé d'avoir ne serait-ce qu'une seule tablette à la maison. Ils cherchaient à les protéger le plus longtemps possible des outils qu'ils avaient eux-mêmes créés, vendus et développés. Ils pouvaient s'offrir une sobriété digitale devenue un véritable privilège grâce à des établissements privés très coûteux, des villas closes, un entourage soumis à leur volonté. Certains parlaient à visage découvert, car ils avaient quitté l'entreprise dont ils dénonçaient les méfaits. D'autres avaient souhaité que leurs traits soient floutés. Tous avaient conscience d'avoir contribué à la création d'une hydre gigantesque dont les têtes se multipliaient de façon incontrôlable. Ils étaient prêts à tout pour épargner leurs enfants. Le docteur Brunet doit avoir environ 55 ans. Elle a une coupe au carré, d'épais cheveux raides qui devaient être blonds, qui sont aujourd'hui blancs, ça lui va bien. Elle rit beaucoup, renversant sa tête en arrière, accoudée à son bureau en forme de L. Ses yeux pétillent. Elle a une énergie contagieuse, une fragilité aussi. Son équipe est confrontée à toutes les addictions. L'alcool et les drogues, évidemment, notamment ces nouveaux produits de synthèse qui peuvent rendre fous. Ils sont particulièrement consommés par de jeunes migrants, des mineurs non accompagnés, comme on les appelle, que l'unité suit en collaboration avec des travailleurs sociaux. L'addiction à la pornographie fait aussi des ravages, et les cas de mineurs prostitués emplissent depuis peu le planning des consultations. Enfin, il y a les écrans. De plus en plus d'enfants et d'adolescents souffrent d'addiction numérique. La plus jeune patiente de l'unité a 9 ans. Elle se prénomme Lou. C'est un cas d'école que j'aurai sûrement l'occasion de rencontrer, me dit le docteur Brunet. Le cyberharcèlement est important chez les élèves du primaire, même si peu d'études sont faites à ce niveau. Elle marque un temps de pause, penche la tête en arrière. Elle me semble partir ailleurs, quelque part dans les souvenirs de ses heures de consultation. Et puis il y a aussi la périnatalité. Je ne sais pas ce que ça fait un téléphone sur le ventre d'une maman enceinte. Je vous ai entendu dire dans une vidéo qu'il fallait absolument expliquer aux parents comment se construit le cerveau d'un enfant in utero. Oui, la formation des parents à tous ces sujets devrait être une priorité. Beaucoup de jeunes ont accès à l'ordinateur familial sans contrôle parental, alors qu'on sait combien d'adultes regardent du porno. Des tout-petits se retrouvent donc exposés à cette violence-là, à des images qui limitent le développement de leur propre pensée. C'est une agression, similaire à une agression physique. Ça provoque des traumatismes psychiques. C'est de la maltraitance infantile. Elle marque un long silence, que je n'interromps pas. On reparlera de tout ça quand vous serez avec nous. La solitude est-elle le terreau de l'imagination? Je me pose la question, en me souvenant de celle que je ressentais enfant. Dans le lit de place que mes parents m'avaient acheté au moment de la naissance de mon petit frère, dans cette maison où nous avions emménagé pour accompagner l'agrandissement de la famille, dans les vignes que je longeais pour aller à l'école, sur les chaises de chacune de mes salles de classe, je me suis sentie différente. Et seule. J'avais des copines, je travaillais bien, les enseignants m'appréciaient, mais le monde me semblait inadapté. Quand je fermais la porte de ma chambre, que je retrouvais la chaleur de ma couette dans ce lit trop grand pour moi, je gardais les yeux largement ouverts, plantés dans le plafond. Si je me concentrais très fort, je pourrais peut-être voir au travers, partir loin jusqu'au ciel et au-delà. Un jour, on trouverait le moyen de prouver ce dont j'étais alors persuadée. On voyagerait dans le système solaire, les systèmes solaires, car je croyais que le nôtre se reproduisait sans fin, identique à lui-même. Le même soleil, les mêmes étoiles, les mêmes planètes, les mêmes satellites naturels en orbite, c'était ainsi que je rêvais l'univers. La même Terre, exactement la même Terre, à l'infini. Une infinité d'océans atlantiques, de mers méditerranées, de continents, de France, de Loire et de Maine, de châteaux de Brissac, de villages nommés Vaucrétien, d'écoles Émile Joulin et de petites Lara. Le temps qu'on trouve un moyen de traverser en vaisseau ces univers parallèles, l'enfant que j'étais aurait grandi, mais je ne serais plus seule alors. Il y aurait d'autres Lara. Cette pensée en tête, je souriais. Les yeux brillants toujours fichés dans les poutres du plafond. Je devais avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans, peut-être même 9 ou 10 ans. J'ai nourri cet espoir pendant longtemps. Une 20aine d'années plus tard, enceinte, dans le cabinet de radiologie où je faisais une échographie de datation, j'entendrai un médecin prononcer cette phrase étrange. « Il y a 2 sacs. » « Pardon ?»« Oui, c'est une grossesse gémellaire. » Pendant les mois qui suivront, à mesure que je sentirai 2 garçons grandir dans mon ventre, je ne cesserai de chérir une drôle de pensée. Mes fils auront donc toujours vécu en entendant le battement du cœur de l'autre, en plus de celui de leur mère. Sur les écrans, il nous arriverait de voir ceux que les médecins appelaient jumeaux 1 et jumeaux 2 se caresser, passant leurs minuscules mains sur la membrane de chacune de leurs poches. Eux, j'en étais décidément certaine, ne ressentiraient jamais le type de solitude que j'avais éprouvée enfant. Je repense à ces moments, en croisant la pancarte « maternité », un peu avant de sortir de l'hôpital après ma rencontre avec le docteur Brunet. C'est peut-être à cause de cette histoire de solitude que je suis là, que j'ai eu l'idée de créer ce centre contre les addictions, parce que l'ultra-connexion numérique des jeunes d'aujourd'hui m'apparaît comme une violence supplémentaire pour ceux qui souffrent d'être seuls, parce que cette utilisation addictive des écrans pousse chaque adolescent dans un anonymat dont le pendant me semble être un isolement abyssal. Peut-être mon attraction pour ce sujet ne vient-elle au fond que de cela, de ce que cette addiction sociétale que je vois comme l'un des plus grands maux de notre époque dit de moi, de ma solitude et de mes propres addictions. Celle dont je peux parler en riant gentiment, celle plus ennuyeuse que je prétends régulièrement abandonner, celle définitivement honteuse que je tais, celles qui m'ont fait me sentir plus vivante que jamais, en équilibre sur un fil, entre la lumière et l'abîme.